Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Comme nous entamons le 27e chapitre, j'aimerais d'abord dire quelques mots sur Judas. C'est un personnage qui interpelle. La semaine dernière, nous en étions arrivés là où Jésus s'était fait arrêter. Je lis maintenant les versets 3, 4 et 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ?» Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Tout d'abord, il semble y avoir une contradiction, car nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 17 et 18, où il est question de Judas. Il était compté parmi nous et avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Quelle est donc la vraie cause du décès de Judas? Il n'y a bien sûr pas de contradiction dans la parole de Dieu. Et voici l'explication qui est presque un peu décevante dans sa simplicité. Nous savons que le sabbat commence toujours vendredi soir, dès que les premières étoiles apparaissent au ciel. Il en est de même pour les grandes fêtes, donc aussi pour la Pâque. Si Pessa tombe sur un jeudi, cela veut dire qu'elle commence mercredi en fin d'après-midi. Or, si un cadavre se trouvait quelque part dans la ville était considérée comme impure, ce qui interdisait toute activité religieuse au temple. Matthieu nous dit que Judas s'est pendu. C'est pourquoi son cadavre a dû être jeté par-dessus les murs de la ville dans la vallée de Hinnom, au sud-est de la ville, comme cela était la coutume quand quelqu'un mourait dans un moment pareil. C'est en étant jeté par-dessus les murailles que le cadavre de Judas s'est rompu. Il n'y a donc aucune contradiction. Matthieu nous explique la mort de Judas et Luc ce qui est advenu de son cadavre. Je lis maintenant les versets 6 à 10. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, donc les 30 pièces d'argent que Judas avait jetées dans le temple, et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Fin de citation. Ici, un nouveau problème se pose à nous si nous ne connaissons pas le judaïsme. La Bible hébraïque classe les livres prophétiques autrement que nous. Il commence par Jérémie. Nous l'avons déjà vu à d'autres endroits. Lorsqu'un juif cite par exemple les premiers versets d'un psaume, il inclut le psaume entier sans devoir pour autant le citer en entier. De même ici, Matthieu, qui s'adresse à une audience juive, cite Jérémie pour parler de l'ensemble des livres prophétiques. Le verset qu'il cite se trouve non pas dans Jérémie, mais dans Zacharie chapitre 11. Notons toutefois que Jérémie prophétise également au sujet de Judas, toutefois pas aussi clairement que Zacharie. C'est pourquoi Matthieu a préféré citer ce dernier. Après avoir résolu ces questions plutôt techniques, posons-nous la question centrale de ce passage. Judas semble s'être repenti. Je cite, « Il fut pris de remords », nous dit Matthieu dans le premier verset. Alors, Dieu ne lui aurait-il pas pardonné, comme il l'a promis à tous ceux qui reconnaissent leur faute et se repentent? Effectivement, Judas eut des remords, et pas qu'un peu, puisqu'il s'est suicidé à cause de son péché. On peut être extrêmement contrit, regretter vivement quelque chose, et cependant ne pas se repentir. Pierre lui aussi a failli lorsqu'il a renié le Christ. Nous disons qu'il en pleurait amèrement. Deux remords, deux conséquences. Judas s'est pendu, Pierre n'en est devenu que plus fort dans sa foi. Une fois la mort, une autre fois la vie. Il y a une repentance purement égoïste. Si seulement je n'avais pas dépensé mon argent pour des bêtises ou ce que je regrette d'avoir fait ceci ou cela. Mais il y a aussi une repentance qui a pour objet la sainteté de Dieu. Mon Dieu, je te demande pardon de t'avoir offensé en faisant ceci ou cela. Est-ce que vous sentez la différence? Chaque païen peut avoir des remords, même au point de se donner la mort, comme Judas, mais seulement un croyant peut vraiment se repentir. C'est ainsi que Paul l'a formulé dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Lorsque nous regardons de plus près le reniement de Pierre, qui revenait aussi à une forme de trahison, nous pouvons ne pas nous souvenir comment l'apôtre s'était écrié « Si tu étais effectivement pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Maintenant vint le test, et Pierre échoua sur toute la ligne. Par pure lâcheté, il nie trois fois connaître Jésus. Sur ses remords, nous apprenons uniquement qu'il pleurait. Mais nous le retrouverons après la résurrection de Jésus. Et je crois que la vraie repentance qui entraîne le pardon de Dieu a toujours des conséquences dans la vie du pécheur. Se repentir, ce n'est pas uniquement regretter, mais c'est jeter loin derrière nous ce péché et une fois le pardon accordé, tourner la page et continuer, mais cette fois-ci dans la bonne direction. Je trouve assez intéressant combien de gens aimeraient voir Judas sauvé. C'est vrai qu'on éprouve beaucoup de peine pour lui. Il avait connu et suivi Jésus, il était un des disciples que Jésus avait même choisi. Lorsqu'il trahit Jésus, celui-ci lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Jésus l'appelle « mon ami ». Quel privilège ! Scofield a raison lorsqu'il dit dans ses commentaires que c'est l'une des scènes les plus pathétiques de la Bible. Mais tout cela n'excuse pas Judas, au contraire. Il avait connu Jésus, il savait qui il trahissait et il savait aussi pertinemment que cette arrestation aboutirait à la crucifixion du Christ, parce que Jésus l'avait prévenu. Il l'a fait quand même. L'amour de l'argent a été plus fort que son amour pour Jésus. C'est ce qui a occasionné sa chute. Faisons très très attention à ce que rien et personne ne s'intercale entre Jésus et nous. Dans ce chapitre 27, nous rencontrons quelqu'un d'autre qui aura des remords, Ponce Pilate. Comme les Romains avaient ôté aux autorités juives le droit d'exécuter la peine de mort, ils durent emmener Jésus aux autorités romaines. Ponce Pilate était le préfet de l'empereur Tibère en Judée. Il aurait aimé relâcher Jésus, mais à lui aussi le courage manqua. Il voulut plaire aussi bien à l'empereur romain qu'au peuple juif. Or, le peuple a réclamé la mort du Christ. Pilate déclina toute responsabilité et se lava les mains de sa faute. À la place de Jésus, c'est un nommé Barabbas qui fut libéré. Nous savons de sources historiques que le prénom de Barabbas était Jésus. Et Barabbas veut dire le fils du Père. Est-ce que ce n'est pas interpellant? Il me semble que Barabbas était beaucoup plus qu'un simple criminel qui avait la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Réfléchissons-y. Le criminel Jésus, fils du Père, qui échappa à la crucifixion. Un faux Jésus, acclamé par les foules, remis en liberté malgré le sang qui collait à ses mains. J'y vois une forme d'antichrist, un imitateur du Christ, fils du diable, rejetant la croix. Mais j'y vois aussi la trace profonde de la grâce de Dieu. Jésus est mort à sa place, comme il l'est pour nous. Il lui a donné une deuxième chance, comme à vous et à moi. Peut-être Barabbas s'est-il repenti un jour? La Bible ne nous le dit pas. En continuant notre lecture, nous voyons le Christ roi couronné, mais pas d'une couronne d'or, mais d'épines, portant un large manteau écarlate, mais non pas royal, mais de sarcasme. Les soldats le battent, lui crachent à la figure, l'humilient. Le roi des Juifs, devenu un misérable objet de raillerie. Il y avait là les soldats du gouverneur, des brigands, des passants qui l'injuriaient, les principaux sacrificateurs qui étaient tellement religieux. Et alors, pendant 3 heures, Le monde plongea dans une grande obscurité. Et dans ces ténèbres, cette croix et la colère de Dieu, de Dieu sur le Christ, cloué, et le Christ qui s'écria « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était cela la coupe dont Jésus avait si peur, la coupe de la colère de Dieu qu'il dut endurer pour nous tous, l'ultime cauchemar par amour pour vous et pour moi. Et là, lorsque l'agneau de Pâques fut immolé dans le temple, l'agneau de Dieu rendit l'âme et mourut. Je lis les versets 51 à 54. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection du Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui devait arriver, et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » En voici donc encore des gens qui eurent des remords, et pour cause. Le voile du temple s'était déchiré en deux, du haut en bas. Ce voile était long de plus de 15 mètres et avait une épaisseur de plus de 10 centimètres. Comment un homme aurait-il pu le déchirer? En plus, si cela s'était fait de main d'homme, le voile aurait été déchiré de bas en haut et non pas de haut en bas. Dieu lui-même l'avait déchiré. Ce voile représentait la division entre Dieu et l'homme, qui existe à cause du péché. En se déchirant, le voile montrait que le chemin vers Dieu s'est ouvert. Le corps de Jésus est le rideau déchiré en deux qui nous amène à la sainte présence de Dieu. Voilà ce que nous lisons à ce sujet dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. De loin, plusieurs femmes observaient tout cela. Jésus mort fut enseveli, sa tombe fut scellée et une garde fut mise en place afin que personne n'aurait pu voler le corps et ensuite prétendre que Jésus était ressuscité des morts. Nous nous arrêtons ici, dans ce moment le plus sinistre, le plus sombre de l'histoire des hommes et en même temps le moment le plus radieux, puisque c'est par la mort du Christ que Dieu nous fait découvrir le chemin de la rédemption. Alors surtout, ne ratez pas le prochain et dernier épisode sur l'évangile de Matthieu. Le Christ a vaincu la mort, afin que chacun de nous puisse recevoir la vie éternelle. Pour cela, croyons en lui, faisons-lui confiance et repentons-nous de nos péchés. Confessons-lui ce qui pèse sur notre cœur et sur notre conscience et ensuite reprenons la route, joyeusement et en toute fidélité, comme Pierre. Je vous dis au revoir et je vous souhaite une semaine bénie.